Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve François-Pierre Nizeri.
Chers amis, chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur Canal Académie pour une chronique consacrée aujourd'hui à un pays que j'aime, qui est le mien. Et je dis bien pays, je ne dis pas province ou région. Ce serait probablement historiquement réducteur. Ce pays, c'est la Bretagne. Et nous l'évoquerons à travers un ouvrage passionnant et passionné, L'histoire de la Bretagne et des Bretons, de Joël Cornette, agrégé d'histoire et professeur à l'Université de Paris 8, natif de Brest. Un ouvrage couronné par le Grand Prix d'histoire de l'Académie française en 2006. Dans ce livre, je devrais dire d'ailleurs dans ces livres, puisqu'il y a deux tomes, Joël Cornette nous invite à une exploration minutieuse des multiples chemins, y compris les chemins de traverse, qui font et qui ont fait l'histoire de ce pays singulier. 1233 pages qui fourmillent d'informations de toutes sortes, des plus classiques aux plus inattendues, des informations qui sont autant de pistes à approfondir et dont la lecture, avec ses multiples références à d'autres auteurs, anciens et modernes, suscite la curiosité et le désir de poursuivre le voyage sur d'autres navires. Mais voilà, ces autres navires ne sont pas toujours à quai dans nos bibliothèques. D'où parfois un léger sentiment de manque. On se dit que 1233 pages ne suffisent sans doute pas à décrire une histoire si riche. Certains mots, certains noms sont là, et demeurent comme suspendus, attendant qu'on les délivre du mystère. Mais après tout, le mystère fait partie de l'âme bretonne, de l'âme de ce peuple breton qui est au centre de la démarche de Joël Cornette. Ce dont témoigne d'ailleurs le titre de l'ouvrage, « Histoire de la Bretagne et des Bretons ». Joël Cornette, et on ne peut que s'en féliciter, l'en féliciter, n'a pas voulu s'en tenir à une histoire événementielle, qui ne suffit évidemment pas à éclairer l'énigme de ce peuple. De nombreux chapitres sont consacrés à la vie quotidienne des Bretons à tous les âges, à leur caractère, à leur organisation sociale et économique, à tout ce qui, au fil des siècles, a construit son identité, une identité terriblement complexe, au point que l'exploration de ces ressorts à laquelle se livre Joël Cornette débouche en fin de compte, en conclusion de son ouvrage, sur le constat d'une vérité irréductible, l'énigme bretonne reste une énigme. Et c'est bien ainsi. Mieux vaut parfois admettre, reconnaître le mystère, s'en imprégner même, plutôt que se laisser prendre au jeu illusoire des stéréotypes qui abondent en ce qui concerne la Bretagne et les Bretons. À commencer par le premier d'entre eux, la fameuse celtitude bretonne, que Joël Cornette invite à considérer avec prudence et qui est à l'origine d'une certaine folklorisation, sans nul doute excessive, de la culture bretonne. Dès les premières étapes connues du long chemin de la bretonnité, celle qui remonte au temps des mégalithes, Joël Cornette insiste sur la spécificité de ses origines premières, sur leur mystère, sur l'empreinte qu'elles laisseront en profondeur sur tous les peuples d'Armorique qui se succéderont par la suite, y compris à l'âge de fer, au moment le plus fort de l'expansion celtique. Il souligne à ce propos, citant Pierre-Roland Giot, Jacques Briard et Louis Pape dans leur proto-histoire de la Bretagne, que les Celtes participent trop facilement du mirage et du mythe. on en voit partout un peu trop rapidement, et d'insister notamment sur la distinction nette à établir entre les Celtes et les Vénètes, et la parenté de ces derniers avec les Vénètes d'Italie. La mémoire celte n'est pas, contrairement à une assimilation abusive assez courante, inscrite dans les vestiges monumentaux. Sa trace se trouve davantage dans le bois, d'où l'effacement relatif de cette trace. Davantage dans le bois que dans la pierre. Or, l'Armorique est le pays de la pierre. Et de tous les signes plus ou moins compréhensibles, de toutes les écritures picturales mystérieuses que l'on retrouve sur les monuments mégalithiques, parfois en abondance, comme dans le cairn de Gavrinis, au cœur du golfe du Morbihan, que d'ailleurs, curieusement, je le dis simplement au passage, Joël Cornet ne mentionne pas. C'est le seul petit reproche, léger reproche, que je me permettrai de lui adresser. Alors, bien entendu, rappeler ce passé bien antérieur, ce n'est pas nier la celtitude armoricaine. Elle existe, ne serait-ce que par la langue. Mais elle n'est pas, loin s'en faut, l'unique composante de l'identité bretonne. Tout au long de son ouvrage, Joël Cornet s'attache ainsi très judicieusement à démonter les mécanismes simplificateurs qui conduisent aux amalgames et aux clichés. Certes, toutes les cultures reposent bien souvent sur des mythes fondateurs. Il suffit de tourner son regard vers l'Orient, vers l'Inde par exemple, pour s'en convaincre. Mais il appartient à l'historien de rétablir non pas la vérité, car elle n'est pas toujours univoque, mais la complexité. J'insiste sur ce mot. La complexité qui modèle les différentes strates de notre identité, qui les relie entre elles, qui nous permet d'opérer dans ce métissage intime des choix affectifs. Des appropriations successives, dirait le professeur Laplantine. De faire ce choix en toute connaissance de cause et en toute lucidité. Loin de tout folklorisme et de toute dérive mythique. Loin également de tout désir fusionnel. Entendons-nous bien. Le stéréotype peut être une nécessité, une porte d'entrée de la connaissance, dès lors qu'il suscite le désir d'aller plus loin, et à condition d'être conscient de ses limites et de la nécessité de démêler tous les entrelacs qui se cachent à l'arrière de l'image. Tout l'intérêt de l'ouvrage de Joël Cornet tient dans la prise en compte de cette complexité, mais aussi dans le lien qu'il établit entre une simplification excessive de la marque identitaire et les dérives possibles de son exploitation politique, qui peuvent être nauséabondes, comme celles qui ont empoisonné certains mouvements indépendantistes dans l'entre-deux-guerres et toutes celles qui, d'une façon générale, portent en elles la menace, jamais éteinte, du nationalisme ethnique. Bien entendu, les nombreux clichés qui parsèment l'imaginaire breton ne représentent pas tous un tel danger. Il en est de plus anecdotique, voire parfois comique. Citons deux exemples à propos de l'identité religieuse. On dit souvent que la Bretagne a un vieux fond catholique. C'est en partie vrai, en tous les cas plus que pour d'autres régions. On le voit même encore aujourd'hui. Mais alors pourquoi diable, si j'ose dire? La chouannerie, souvent assénée comme l'image par Cadoudal interposé d'un catholicisme paysan bien breton, même s'il a été importé de la Vendée voisine, et qui plus est royaliste, pourquoi est-ce que la chouannerie ne s'est pas étendue aux campagnes bretonnantes plus à l'ouest? L'ouvrage de Joël Cornet remet bien les choses en place à cet égard. Autre exemple touchant encore la question religieuse. On a coutume en Bretagne de rattacher le catholicisme au granit et ses opposants au calcaire, matière par définition friable et instable. Sait-on qu'en Cévennes, c'est l'inverse. Les protestants sont de granit, tandis que l'ennemi catholique est confiné dans les terres calcaires. On pourrait multiplier à l'infini les exemples de ces caricatures plus ou moins drôles, dont beaucoup ne font que refléter des désirs profonds et parfois contradictoires d'affirmations identitaires, mais qui toutes se heurtent à l'obstacle incontournable de la complexité. Et j'insiste à nouveau sur ce mot. Et pour un Breton, pour la Bretagne, force est de reconnaître que le défi est immense, car toute son histoire est faite de brassage et d'antagonisme, de lutte de pouvoir, dans, autour et à propos de son territoire. Un territoire d'une configuration si particulière qu'il en devient un enjeu stratégique pour tous ses voisins, à toutes les époques de son développement. Ce qui exacerbe d'autant plus ce besoin intime et irrépressible de se forger une identité qui le met à l'abri. Ou du moins, ce qu'il considère comme un abri. Qui le protège des convoitises de ses prédateurs. Qui préserve son indépendance et sa liberté d'être lui-même. Cette fidélité à la terre, symbolisée par la figure emblématique d'Anne de Bretagne, la bonne duchesse en sabots. Ce désir obstiné, à l'origine du plus célèbre des clichés, celui du breton têtu. Ce désir obstiné naît parfois même au risque du recours à des alliances supposées salvatrices, mais qui se révèlent souvent captatrices. Toute l'histoire de la Bretagne, et Joël Cornette l'illustre parfaitement, est marquée par ce va-et-vient des alliances extérieures. Ainsi, pendant la guerre de succession, qui dure de 1341 à 1366, tandis que Jeanne de Penthièvre, prétendante au duché, mariée à Charles de Blois, neveu de Philippe VI de Valois, s'allie au roi de France, Jean de Montfort, son rival, s'appuie sur le roi d'Angleterre, pour ensuite, beaucoup plus tard, après sa victoire, quand il est devenu Jean IV, se retourner contre son allié. Ainsi encore, au temps des guerres de religion, à la fin du XVIe siècle, le duc de Mercœur, gouverneur de Bretagne, pour contrer le roi de France au nom de la Ligue, les catholiques, s'allie à l'Espagne de Philippe II, dont les troupes s'installent sur la côte sud de la Bretagne. Une présence espagnole encore visible récemment à travers l'architecture de certaines de ces villes. Les maisons espagnoles de Port-Louis, par exemple, citées notamment par l'ancien conservateur en chef des archives de Bretagne, Henri-François Buffet. Et les noms de certains de ses habitants même. Pour Philippe II, qui régnait sur l'Espagne, mais aussi sur les Pays-Bas, la Bretagne était une terre naturelle. Elle était le lien maritime entre ces deux domaines et le bastion avancé de sa lutte contre le protestantisme. L'identité bretonne est faite de tous ces apports extérieurs, y compris ceux qui lui viennent de ses anciennes liaisons commerciales au nord, mais aussi en Méditerranée. Il y a évidemment quelque chose de méditerranéen dans la bretonnité. C'est un comble pour un pays situé au bord de l'Atlantique, et pourtant c'est vrai. Ernest Renan allait encore plus loin en disant qu'il y avait quelque chose de chinois dans l'âme bretonne. Comme beaucoup de peuples dans le monde, le breton intègre dans son identité le regard extérieur dont il se nourrit. Il intègre des rivalités devenues métissages. Il porte en lui ces traces venues d'ailleurs qui se retrouvent dans toute une panoplie d'antagonismes internes. Notamment ceux qui relèvent de la géographie et de la sociologie. L'Armor, pays de la mer, l'Arquat, pays de la terre, la campagne versus le littoral, les marins, les paysans. Ou de la langue, le pays gallo, le pays bretonnant avec sa variante vantaise, et d'autres encore touchant la politique ou la religion, qui ne se ramènent pas toujours, loin de là, à des oppositions duales simplistes. C'est tout cela, la Bretagne, son identité plurielle, sa diversité toujours actuelle, sa complexité. Je répète encore ce mot, je l'ai cité 4 fois, et je ne le regrette pas, tant il représente, à mon sens, la clé de lecture de l'ouvrage de Joël Cornette, et même conclut, à la toute dernière page, l'histoire de ce pays, son énigme, qui ne peut pas être réduite à des explications simple. C'est le moins qu'on puisse dire. Merci à Joël Cornette et merci, chers auditeurs, d'avoir bien voulu écouter ce message de la bretonnité, bien utile au monde d'aujourd'hui, où tout doit se vendre, donc se simplifier. Vive la complexité !